question d'islam par Ghalib Bentcheir. Aujourd'hui, nous recevons Dr Majid Sehoussin. C'est avec grand plaisir que je vous reçois. Je vous présente tout de suite pour nos amis auditeurs. Vous êtes médecin. Vous êtes aussi animateur de l'égalitédabord.fr et vous étiez longtemps administrateur du MRAP. Nous avons décidé ce matin de parler de l'actualité brûlante autour de la question islamique, une question épineuse, centrale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux, encore une fois. Mais ce qui nous intéresse, c'est le débat au sein de la nation française et comment faire pour l'apaiser et banaliser, tout simplement, harmoniser la vie des musulmans et de cette question islamique qui ne soit pas un enjeu pour les prochaines échéances électorales et qui ne soit pas aussi le prétexte pour des dérapages qui ne doivent pas avoir lieu au sein de la République. Cette actualité brûlante, vous-même, comme acteur social, un intellectuel, comment la vivez-vous ?
Écoutez, depuis un certain nombre d'années, on avait pris l'habitude de s'engager pour les combats pour l'égalité, la lutte contre les discriminations, un regard déjà normé ou que l'on voulait apaiser de ceux qu'on présentait comme des Français issus de l'immigration, on ne savait pas très bien. Il y a peu, les choses ont pris une autre tournure. Ça avait été, je pense, inauguré sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et moi, j'ai toujours en mémoire cette fameuse blague de Brice Hortefeux sur les Auvergnats. On se souvient de cet épisode. Et on assistait déjà, à mon sens, à un glissement de l'hostilité qu'on pouvait avoir pour les gens venus du Maghreb vers un glissement sur la question de l'islam. Aujourd'hui, il faut dire qu'on se trouve contraint, alors que la République veut que la religion reste une question privée, on se trouve contraint de se poser en tant que Français, mais aussi en tant que musulman, puisque le débat sur l'islam ne se fait pas de la manière apaisée que vous évoquiez. Et on a fait de la question de l'islam en France une question d'un enjeu politique, et singulièrement, malheureusement, d'un enjeu à l'heure actuelle pour la primaire des Républicains. Et sans doute un enjeu dans la future campagne présidentielle qui s'annonce extrêmement angoissante pour tous les hommes épris d'un débat serein et apaisé.
Avant de poursuivre davantage, une question qui fuse d'emblée. Comment expliquez-vous ce paradoxe que dans un État laïque, sous la voûte commune de la laïcité, les institutions républicaines qui tiennent par-dessus tout à cette désintrication de la politique d'avec la religion, on se voit, en dépit de tout, en train d'instrumenter ou instrumentaliser une tradition religieuse pour des fins politiciennes, pour des fins électoralistes, en tout cas pour l'apaisement que nous souhaitons.
Alors, à cela, il y a plusieurs raisons. La première, pour être honnête, c'est que sans doute, on observe tous une transformation du monde. Chacun perçoit, chacun a vécu. Moi, je suis originaire d'Algérie, je sais très bien ce que veut dire la question islamiste. Chacun perçoit donc une transformation de son environnement. On a vu apparaître en France des gens avec des longues barbes, des khamis. On a vu la presse rapporter un certain nombre de faits divers. On a vu des transformations, des menaces, de ce qui est perçu comme des menaces. On ne peut pas nier le fait qu'il y a eu le 11 septembre, on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu Al-Qaïda, on ne peut pas nier le fait que malheureusement notre pays est depuis 2 ans maintenant traversé par des attentats. La France est habituée au terrorisme. Les plus anciens se souviennent des Brigades Rouges, de l'ETA, de la bande à Baguer, de la fraction Armée Rouge, de la Salah arménienne. Et aujourd'hui, malheureusement, le terrorisme qui fait parler de lui, c'est un terrorisme qui se réclame de l'islam ou de l'islamisme. Et il y a ce problème sur les mots aussi, les définitions. Et donc ça, c'est sans doute la première raison. La seconde raison, j'ai une image de médecin. Je considère que l'intrusion dans le débat politique de la question de l'islam, c'est un peu comme dans le sida et les maladies opportunistes. Quand les défenses immunitaires sont faibles, apparaissent des maladies qui viennent aggraver cette déficience immunitaire. Eh bien là, il y a une déficience intellectuelle de la part des politiques qui sont dans une indigence totale, une incapacité à faire des propositions sur les vrais sujets, et la question de l'islam leur sert un petit peu d'écran de fumée. Il est plus facile de parler de l'islam que de faire des propositions intelligentes, construites, sur la lutte contre les discriminations, sur l'aménagement du territoire, sur l'aménagement des quartiers populaires, sur la crise économique et les ravages catastrophiques que représente le chômage depuis 30 ans maintenant dans ce pays.
Alors, si je vous suis bien et je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, dans un premier temps, vous reconnaissez qu'il y a une irruption de la violence dite islamiste, pour l'instant on va garder ce vocabulaire, qu'il incombe aussi aux musulmans eux-mêmes et au premier point, à leur hiérarque, non seulement de condamner, fustiger, récuser, dénoncer avec force cette violence-là et qu'il y a un énorme travail à mener, mais en même temps, l'indigence intellectuelle, voire la déshérence de la classe politique d'une manière générale, fait en sorte que cette question-là, finalement, n'étant pas réglée, elle fait écran.
Écran de fumée.
Bon, un écran de fumée. Et du coup, vous préconisez, et avec d'autres, qu'il vaut mieux, encore une fois, savoir séparer les paramètres.
Ah, tout à fait. Nous sommes en recherche de plusieurs choses. Nous sommes en recherche d'un cadre serein pour discuter des questions qui peuvent se poser autour de la question de la perception de l'islam en France. Parce que l'islam de France, je ne crois pas que ça puisse exister, mais d'un islam en France. Ce cadre serein reste à inventer, ce cadre devrait être occupé par ceux qui seraient supposés organiser ces débats. Pour l'instant, on les cherche encore à la lumière la plus épaisse, on ne les trouve pas. Et il devrait y avoir des états généraux, organisé probablement dans le cadre d'un consensus national, mais là je rêve sans doute un peu, autour des questions de la solidarité nationale avec les plus faibles, de comment va-t-on éduquer nos enfants, de comment va-t-on remettre du sens aux mots république et au triptyque de la devise de ce pays, liberté, égalité, fraternité. Moi j'ai coutume de dire que la liberté en France semble quand même être relativement acquise. L'égalité, c'est extrêmement compliqué, mais il y a quand même des gens qui y travaillent depuis un certain nombre d'années. Et là où ça pêche, c'est la fraternité. Personne ne s'occupe de la fraternité entre les différentes composantes de ce qui est devenu la nation française.
Sachant qu'historiquement, la fraternité est venue bien plus tard pour compléter la triade républicaine. Déjà, et ce n'est pas innocent, si je puis dire, au regard de l'histoire de la République. Un mot aussi sur la collusion faite toujours entre les questions d'immigration et les questions d'islam. Il faudrait aussi savoir découpler les deux registres. Il y a un lien, certes, entre l'immigration et l'islam, mais c'est loin d'épuiser la réalité islamique dans notre pays.
Naturellement. Et là, on revient encore à l'indigence intellectuelle de nos politiques. De mémoire, le seul qui eut l'honnêteté intellectuelle, et je ne fais pas un plaidoyer pour lui, c'est Alain Juppé qui a reconnu, il y a plusieurs mois de cela déjà, qu'il ne connaissait absolument rien de l'islam. Aujourd'hui, l'on voit des politiques qui n'ont aucune formation, aucune compétence en ce domaine, qui se voient se proclamer, se décernant eux-mêmes ce titre, le titre d'islamologue, et nous expliquant ce qu'est l'islam. Faisons le raccourci le plus commode et le plus simpliste qui soit, immigration, islam, danger. C'est méconnaître totalement un certain nombre de faits. L'immigration ne se résout pas à l'arrivée de musulmans. On observe à l'heure actuelle l'arrivée en masse de gens venus d'Érythrée. On observe à l'heure actuelle en masse des gens venus du Soudan du Sud, qui est le siège d'une guerre horrible. On voit arriver des gens venus d'Asie, des Chinois, qui ont parfois eux-mêmes des problèmes avec les musulmans français natifs ici. On l'a vu à Aubervilliers.
En précisant que ceux qui viennent du Sud-Soudan sont plutôt chrétiens.
Tout à fait, ils sont tout à fait sont chrétiens. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a scindé le Soudan en deux États, il n'y a pas très longtemps de cela. Et donc, on est, dans le raccourci, islam, immigration, danger.
Il y a les fameux 4 I, islam, immigration, identité, insécurité.
Voilà, ça nous rappelle des souvenirs de quelques années.
nous sommes, et je m'adresse au médecin que vous êtes, en train de diagnostiquer le mal afin de lui trouver une médication appropriée. En réalité, avec le temps qui s'écoule, ces choses-là devraient en principe, j'ai dit tout à l'heure, sinon s'apaiser, s'harmoniser, au moins se banaliser, parce que la composante islamique de la nation fait partie intégrante de la nation. C'est un truisme que de le dire, mais apparemment ce n'est pas perçu ainsi, non seulement par les autres franges de la nation, mais y compris ceux qui rêvent de présider à sa destinée.
Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que malheureusement, ce qui se banalise, c'est aujourd'hui la parole raciste. C'est la parole extrême. Imaginez que l'on tienne ces discours il y a 10 ans de cela. Il était totalement impossible qu'un candidat aux plus hautes fonctions de l'État tienne les propos qu'a pu tenir, par exemple, M. Nicolas Sarkozy. Ou les propos qu'a pu tenir M. Manuel Valls cet été, lors de son discours, parlant de Marianne qui avait l'épaule nue, en voulant l'opposer à la femme musulmane qui, elle, n'était pas libre. Personne ne se serait aventuré sur des chemins aussi dangereux.
Peut-être que c'était par rapport à celle qui arborait ce burkini, perçu comme une provocation sur les plages françaises, et notamment après la tragédie de Nice, et notamment.
Peut-être, mais sans doute qu'il y a quelques années encore, les gens se seraient auto-censurés pour éviter des polémiques ou d'entrer dans des débats, sachant qu'à l'époque, tout le monde redoutait la montée du Front National, et qu'aujourd'hui, la préoccupation de beaucoup de politiques, c'est simplement de dépasser le Front National pour rattraper ses électeurs dans une espèce de manœuvre de tenaille. Et on se souvient historiquement que la fameuse manœuvre de tenaille de 1940 s'est soldée par l'échec de la défaite.
Et l'argument qui consiste à dire, si vous ne nommez pas les choses, eh bien, d'aucuns qui le perçoivent et qui le vivent, dans la peur, dans la crainte, ben, vont glisser de fait et vers ces extrêmes, et notamment le Front National.
Vous faisiez tout à l'heure référence à ma qualité de médecin. Je suis souvent confronté à la difficulté de devoir annoncer des maladies terribles, des diagnostics affreux, des pronostics sombrissimes. Chaque fois que je le fais avec mesure, en pesant mes mots et en cherchant toujours à proposer une solution ou à rassurer. Quand bien même on se trouve dans une situation catastrophique, on doit apporter une parole qui donne de l'espoir, qui donne de la confiance et qui essaye d'atténuer un peu l'angoisse. Aujourd'hui, bien au contraire. On se trouve avec des gens qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que l'embrasement se fasse pour pouvoir espérer tirer des fruits et recueillir les fruits de cet embrasement.
Et qu'il y ait décantation après l'embrasement, selon le vieil adage qui dit « c'est après la mixture qu'on puisse recueillir le sirop ou quelque chose comme ça. »
C'est parfois le poison.
Ou parfois le poison, comme vous le dites si bien. Auquel cas, il faudrait lui trouver l'antidote. C'est la parole publique qui doit être responsable. Les prises de parole publiques peuvent être soit dans la construction, donc une parole constructive, et elle peut aussi être cette parole destructive, c'est selon. Et donc nous assistons aussi, dans le tintamarre et dans le vacarme tumultueux, dans cette trépidance d'une hystérisation autour de cette question-là, une parole qui n'est absolument pas responsable.
Malheureusement, ceux qui aspirent au poste de premier responsable, ils sont nombreux. Dans ce vocable, il y a le mot « responsable ».
Donc répondre de ses actes.
Tout à fait. Nous attendons avec impatience qu'émerge quelqu'un qui jouera le rôle du père de la nation. Mao disait qu'une image vaut beaucoup mieux qu'un million de mots. Le père de famille, il est là pour apaiser les relations et les conflits qui peuvent exister dans une famille. Aujourd'hui, personne n'est en mesure, personne n'est capable d'occuper ce rôle. Il n'y a personne qui vient rassurer les citoyens français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, et leur dire « n'ayez pas peur ». Enfin, si on devait comparer la parole de nos hommes politiques avec la parole du pape François, qui est exemplaire, qui rassure ses fidèles en leur disant « attention, n'ayez pas peur de l'islam, je ne peux pas me permettre de faire de critiques de l'islam, n'ayez pas peur des musulmans ». Et qui cherche à créer un dialogue, qui cherche à nouer une relation fraternelle. Nos hommes politiques seraient bien inspirés d'aller prendre quelques leçons auprès de lui.
et en même temps, comment faire pour ne pas rester tétanisé à attendre, hélas, dans cette récurrence des attentats, la prochaine attaque.
La peur n'évitant pas le danger, il faut, d'une manière déterminée et sereine, agir, travailler. Les services de sécurité sont quand même font un travail remarquable, puisqu'on apprend au fur et à mesure des choses, qu'on dénoue un certain nombre d'attentats. Nous ne sommes pas totalement nus dans ce pays face à la menace terroriste. Et la plus grande victoire des terroristes, et chacun le comprendra, serait une espèce de fracture nationale où les gens s'opposeraient les uns aux autres. Et c'est d'ailleurs un peu le sens de leur discours. Ne leur donnons pas cette victoire. C'est une insulte à la mémoire des près de 300 personnes qui sont mortes.
Oui, et on reconnaît le génie d'un peuple et la grandeur d'une nation au moment de l'adversité, au moment de la difficulté. Et une nation résiliente ne peut pas se permettre d'être fragmentée. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous ne pensez pas, Majid Sehoussin, que le temps est aussi propice à l'investissement intellectuel pour prendre en charge, par la réflexion, par la pensée, cette situation aussi de crainte, de peur, de repli, de crispation entre les membres d'une même communauté nationale?
Alors, l'époque est assez difficile et présente un certain nombre de travers. Aujourd'hui, tout fuse, tout va vite. On est abreuvé d'un certain nombre d'informations, nous pensons tout savoir. Et finalement, quand on s'assoit et qu'on commence à réfléchir sérieusement, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et manquent les espaces, les lieux et le temps de la réflexion et de l'élaboration intellectuelle, aussi bien pour les citoyens français dans leur ensemble que pour chacun dans son identité, dans sa communauté, et singulièrement pour les musulmans. Aujourd'hui, les citoyens français ou non français de culture ou de religion musulmane manquent de références. Alors, ils vont les chercher là où ils les trouvent. Ceux qui ont de la chance trouvent des gens qui font des émissions comme la vôtre, des gens qui parlent d'une manière calme, apaisée, d'une manière pédagogique, des informations qui leur manquent. D'autres s'égarent sur des prêcheurs qui tiennent des discours hors d'âge, des discours qui peuvent être agressifs, des discours qui sont parfois extrêmement condamnables. Et malheureusement, on ne trouve pas suffisamment de corpus, que ce soit des ouvrages, des revues, des émissions, notamment en ce qui concerne le jeune public. Le jeune public ne lit pas le journal, ne lit pas le Monde des religions. Le jeune public va sur YouTube et regarde des vidéos. Ce genre de choses fait cruellement défaut. Il y a un problème dans les modes de communication et les modes d'expression, notamment en destination de la jeunesse, et peut-être que tout à l'heure nous parlerons du rapport de l'Institut Montaigne, il y a des éléments qui sont extrêmement éclairants là-dedans.
Bien entendu, je voudrais simplement ajouter, selon la formule désormais consacrée, cette jeunesse désemparée va s'abreuver auprès du cher Google pour y trouver des fatwas, des édits, des réponses, à la fois à leur questionnement et à leur soif de spiritualité. Dans mon esprit, Majid Sehoussin, c'est en parlant d'investissement aussi intellectuel et la responsabilité, la tâche, la mission, l'ambition même des intellectuels, c'est pour donner à réfléchir, donner du sens à une situation délicate et difficile. Et nous trouvons quelques-uns qui, au contraire, exacerbent les tensions et attisent exacerbent tout cela. Et donc, vous avez répondu à l'un d'eux.
Moi, je crois encore à la force de la plume. Et je crois encore au rôle de la presse, au rôle des médias qui peuvent avoir un rôle éminemment noble. C'est pour ça que, faiblement, chaque fois que quelque chose me hérisse, je prends mon stylo et j'essaye d'écrire avec mes mots. Et je dois dire, quand j'ai découvert la vidéo de l'intervention d'Éric Zemmour sur la première radio de France, ou celle qui se prétend la première radio de France, un matin à 8h20, et que j'ai entendu les propos tenus par ce trublion, puisque je crois qu'il s'agit de cela, parlant de désislamiser, faisant un amalgame insupportable entre musulmans et islamistes, donc terroristes, expliquant sans vergogne que le prophète Mahomet aurait lui-même égorgé nombre de juifs et de chrétiens, et que partant, puisque tout musulman se devait de suivre le modèle du prophète, tous les musulmans devaient trouver normal d'égorger ou de tuer eux-mêmes des chrétiens et des juifs. À ce moment-là, une multitude de sentiments se sont emparés. Colère, fureur, indignation, incompréhension. Comment peut-on laisser s'exprimer d'une telle manière un homme ? Je demande quelle eût été la réaction des masses si on avait remplacé le mot musulman par un autre. Je vous laisse choisir celui que vous voudrez.
Ya laitani lughati li a'rif ma thawa fil qalbi afsiha kulla ma indi ya laitani lughatun على شفاة طواها الهم لا تخفي ولا تبدي إن صارحتني لفظها طرحت على الأسماع أسرارا من الوجد أو أضمرت ما شاقها كشفت على الصحراء آهات بها تخدي
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'islam au pluriel. Spécialement aujourd'hui, nous parlons de l'actualité brûlante et toujours avec Dr Medjid Sehoussine, médecin, animateur du site légalitédabord.fr et longtemps administrateur du MRAP, le mouvement pour
contre
le racisme et l'amitié entre les peuples. Et nous sommes en train de parler de votre réaction hérissée, même si on dit souvent que la colère et la peur sont toujours des mauvaises conseillères, mais vous avez eu le temps de coucher par écrit votre indignation. Et c'est ce syllogisme qui part d'une prémisse fausse. Le prophète de l'islam a de lui-même égorgé des chrétiens et des juifs, ce qui n'est absolument pas vrai au regard de la réalité historique. Donc c'est un mensonge et honté, et comme on se doit d'imiter le prophète, donc tout musulman est un égorgeur potentiel. Et c'est cette diffamation, en réalité, contre laquelle vous vous êtes insurgé.
Cette diffamation est aussi des vocables qui sont, par exemple, le mot « désislamiser ». Monsieur Zemmour parlait de désislamiser un certain nombre de quartiers. Pour ma part, ça évoque pour moi la guerre en Bosnie, où les Serbes voulaient désislamiser une partie de la Bosnie. On avait en sous-jacent des mots... Enfin, on pouvait chercher des parenthèses et on glissait doucement vers une espèce d'épuration. Et on sait très bien le danger que représente ce genre d'attitude intellectuelle. D'autant que M. Zemmour, probablement, est totalement incapable de violence. Mais la banalisation, la verbalisation de ce genre de propos dans des esprits faibles peut inviter, enfin tout le monde a le souvenir des ratonnades des années 70, des années 60 et encore des années 80. Moi j'ai pour souvenir, en 83, l'assassinat dans la cité des 4000 à la Courneuve de jeunes gens qui faisaient des tours de mobylette dans les cours de la cité par des habitants excédés qui avaient tiré au fusil. Il faut se souvenir de cette histoire-là qui commence à être un peu ancienne, puisqu'on est à plus de 30 ans de tout cela, et qui avait été à l'origine, avec les mouvements de Nice et de Vénissieux, de la marche pour l'égalité des droits. L'histoire a un sens et elle repasse souvent les plats, malheureusement.
La fameuse marche qui, du 15 octobre au 3 décembre 1983, ne cherchait qu'à voir le triptyque républicain bien appliqué, et les mots d'ordre à ce moment-là étaient « on ne peut plus laïque » et pour que la laïcité de l'État aussi s'applique. hélas, les générations d'après vont trouver dans le discours religieux une sorte de revendication politico-identitaire. Eh bien, peut-être que la transition se fait maintenant vers ce rapport de l'Institut Montaigne, où l'on trouve d'emblée, et on va le disséquer ensemble, si vous voulez bien, docteur Majid Serhoussin, que le vocable islam, le terme islam, l'islam en tant que tel, devient le canal d'une rupture. C'est aussi l'un des enseignements que vous tirez vous-même de la lecture d'emblée du rapport.
Alors, ce rapport est extrêmement riche. D'abord, il faut le souligner, même si les résultats ne plaisent pas toujours, c'est probablement le premier travail mené avec une certaine forme de rigueur pour essayer de faire une analyse de ce qu'est l'islam ou les musulmans de France, quels sont leurs rapports. Alors, sans doute qu'il y a des points qui sont contestables parce que toute étude doit avoir une méthodologie, une puissance. Il y a des critères statistiques dont je ne suis pas sûr ou certain qu'ils aient pu être réunis. Néanmoins, ça donne un certain nombre d'informations. Et puis, moi, je ne suis pas gêné du tout avec cette idée de faire un constat. En médecine, vous savez, on a l'habitude des études. Et quand les résultats ne nous plaisent pas, on n'enterre pas l'étude. On la regarde, on cherche des solutions. Je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut se poser. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre, effectivement, que l'islam pose un certain nombre de questions et source de mauvaises interprétations, qu'on pêche énormément par ignorance. Dans les résultats, par exemple, on note qu'un certain nombre de musulmans de France pensent que le halal est un des 5 piliers de l'islam. Et c'est là où l'on voit, on revient au tout début de notre entretien, sur le rôle des intellectuels, le rôle des pédagogues, sur le rôle de la transmission, le rôle d'un espace apaisé, le rôle d'une source d'information neutre, équilibrée, normée, où les gens pourraient trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. On voit aussi que finalement, la revendication d'une identité en tant que musulman est sans doute une mauvaise réponse au sentiment de perception d'injustice que ces gens vivent, que ces jeunes gens dans les quartiers vivent, injustices qui sont palpables, patentes, connues, étudiées, mesurées, et pour lesquelles on ne trouve pas de solution alors que ce débat existe depuis 20 ans.
Majid Serhoussin, je ne voulais pas vous interrompre dans votre élan, et comme ça vous allez jusqu'au bout de votre pensée. Un mot sur le halal, terme arabe qui veut dire licite. Qui a surgi comme ça, surtout ces dernières années. Or, ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'alimentation, ce qui est prohibé, en réalité, c'est de ne pas manger une viande d'un animal abattu à une autre divinité qu'à Dieu. Mais l'excès de zèle des uns et des autres veut qu'on ne mange que ce qui est immolé ou abattu que pour Dieu. Donc, ce sont ce genre d'explications que vous auriez souhaité entendre et expliquer davantage à ces jeunes gens et ceux qui y tiennent mordicus. Du coup, ces jeunes gens, notamment, ce n'est pas dépréciatif dans ma bouche, c'est aussi un constat, sont outrageusement ignorants de leur propre tradition.
Tout à fait.
Et donc, pallier ces manquements passe par la connaissance, la culture, l'éducation et avoir ce corpus dont vous appelez de tous vos voeux. Revenons au sondage, à l'étude elle-même, d'aucuns, et vous l'avez même évoqué, parlent du manque de rigueur ou de la scientificité un peu douteuse d'un échantillon de 1029 personnes, auquel cas on en a tiré des généralisations peut-être un peu abusives.
C'est la langue est le meilleur et le pire des plats, comme disait Ésope. Il faut percevoir cette étude, à mon sens, comme une base de travail qui peut être la source ou l'aspiratrice d'autres études qui devront être scientifiquement plus fouillées. Mais on ne peut pas reprocher, à ma connaissance, aux initiateurs de cette étude une volonté de nuire. Sûrement pas.
En aucun cas et d'aucune manière.
Et d'aucune manière. Il faut une base de travail pour commencer une réflexion intellectuelle. Cette étude invite à aller plus loin, invite à réfléchir, invite à chercher des solutions. Et puis, ma foi, il ne faut pas chercher à cacher le soleil avec un tamis. Il existe, nous le percevons chaque jour, une tendance qui peut paraître inquiétante. Affrontons-la avec courage. Soyons des acteurs d'une transformation. allons parler à ces gens qui partent à la dérive, tendons-leur la main, remettons-leur sur un chemin plus serein, plus apaisé, aidons-les. Et la seule réserve que j'apporte, c'est que malheureusement, elle sort à un très mauvais moment. Elle sort au moment de la campagne des primaires de la droite et au moment
et du centre.
Du centre, oui, mais les centristes n'ont pas de candidat, je crois. Au moment de l'élection présidentielle, je regrette qu'elle ne soit pas sortie après. Mais bon, allez, on va faire avec cela. Je regrette aussi, et on revient encore un peu en arrière, au fait que les politiques qui s'expriment sur ce sujet, notamment un certain nombre d'entre eux, ne mettent qu'en avant les 29%, on nous rebat avec ces 29% pour lesquels la charia serait supérieure aux lois de la République. Très peu parlent des autres
72%
qui sont parfaitement sécularisés et insérés dans la société française, ce qui quand même devrait rassurer nos concitoyens.
Alors, on dit souvent que les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture, donc on les triture comme on veut et comme on a envie de leur donner une orientation particulière. Nous reviendrons sur les 20. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait 28%. Donc, vous en avez ajouté 1%.
Je reprends les déclarations de Nicolas Sarkozy.
Les 72% eux-mêmes se subdivisent en deux collèges, si je puis dire. Il y a ceux qui sont sécularisés, à supposer qu'on puisse parler ainsi. Donc, pour eux, la question islamique est une question plutôt personnelle. C'est une référence plus ou moins culturelle ou cultuelle. Mais ça ne leur pose en aucun cas un problème à vivre leur citoyenneté. D'autres sont un peu plus dans la pratique, mais qui restent aussi apaisés et sereines. Ce qui est curieux, c'est que de cela, on n'en parle pas, ou peu. Ça doit rassurer, c'est ce que vous voulez dire, Majid Serhoussi.
Tout à fait.
Et les 28%, qu'est-ce qu'ils entendent par la charia au-dessus des lois de la République? Si au moins nous comprenions cette assertion qui nécessite d'être déconstruite.
Alors, je pense que ce mot de la charia au-dessus de la République, il doit être très dédramatisé. D'abord, j'aimerais savoir ce que les gens ont répondu à ce questionnaire savent de la charia et qu'est-ce qu'ils en comprennent. Ensuite, demander à un croyant s'il place la parole de Dieu au-dessus des lois de la République. Moi, je ne suis pas surpris qu'ils répondent qu'ils placent la parole de Dieu au-dessus des lois de la République.
Quelle que soit la confession.
Quelle que soit la confession. Je suis sûr que si l'on allait à la sortie de n'importe quelle grande synagogue parisienne ou de Saint-Nicolas du Chardonnay et qu'on posait cette question-là aux sectateurs de ces deux religions, qui sont des religions du livre, rappelons-le, on aurait sans doute des réponses voisines. Ça peut procéder d'une idéologie politique, mais je suis sûr que si on avait posé cette question à ma grand-mère, paix à son âme, elle aurait répondu que bien sûr, la parole de Dieu est supérieure à toute parole d'homme. La parole de la République est la parole des hommes, et qu'un croyant place la parole de Dieu au-dessus de celle des hommes ne me surprend pas.
Et pour peu qu'on soit un tant soit peu éclairé, on comprendra que le primat du droit positif et que l'initiative législative doit incomber aux hommes, et notamment dans une démocratie saine, et on ne peut pas se prévaloir de sa tradition religieuse pour l'imposer à autrui. Vous et moi, peut-être, connaissons un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière le vocable charia. Ces jeunes gens, qui ont été interrogés, ne le savent pas. Le mot ne veut rien dire d'autre que loi. Il a besoin d'une épithète dans sa seconde acception. Il a besoin d'une épithète pour savoir de quelle loi il s'agit. Celle d'Amourabi, on parle de la charia d'Amourabi, la charia de Napoléon, la charia de Moïse, la charia de la jungle, la charia positive, si on devait utiliser cet arabisme. Vous pensez que ces jeunes gens, parce que ces 28% sont constitués essentiellement d'une frange jeune, oui, parmi les sondés, et donc vous me le confirmez, eu égard à leur déficit de connaissances, ont répondu par bravade ou par conviction? Quel est votre sentiment?
Je pense qu'un certain nombre d'entre eux ont répondu par bravade, forcément. Il faut bien connaître cette jeunesse. Il faut bien la connaître. C'est une jeunesse d'abord qui est formidable, on le dit pas assez. C'est une jeunesse qui pourrait représenter pour notre pays sorte de chance de rajeunissement, de nouvelles forces. On a bien vu comment, dès qu'on leur donne une chance, ils sont inventifs, créatifs, comment ils ont pu saisir des opportunités économiques qu'on leur a données. Il suffit de prendre Uber et vous voyez que tous ces jeunes qu'on décrivait comme des trafiquants, des dealers, des animateurs de tournantes ou de je ne sais quoi, dès qu'on leur a donné une chance, se sont saisis d'une opportunité de s'insérer dans le marché du travail. On sait, il suffit d'écouter les comiques issus de cette communauté, il suffit d'écouter les chanteurs qui font du rap, on voit combien ils ont un sens de la provocation, du verbe, qui témoigne de la force de leur jeunesse et de leur vivacité intellectuelle. Évidemment, vous faites ce genre de propositions, qu'est-ce que vous pensez de la charia, c'est mieux que la République? Oui, évidemment qu'ils vous répondent ça. D'autant que pour eux, ils ne connaissent pas très bien la charia, ils connaissent sans doute encore moins bien la République. Parce que où est la République? Quand vous allez l'exciter des poètes à Pierrefitte, quand vous vous promenez sur la dalle de Bobigny à l'Épaule-et-Loire, ou à Sevran, au Bodot ou au Basse-Terre, où est la République? Là où il n'y a pas un seul policier, là où il n'y a pas un bureau de poste, là où il n'y a plus de médecins, là où il n'y a pas un seul commerce, là où quand vous parlez avec les habitants, on vous dit « quand j'appelle la police ne vient pas me voir ». Où est la République?
Et d'un autre côté, aller leur expliquer que la charia est aussi une construction humaine, et la meilleure preuve, c'est qu'il y a 4 grandes écoles dans le monde sunnite, et que cette élaboration du corpus qui a pris aussi du temps est aussi une preuve de l'élément humain dans le corpus juridique qu'on appelle charia. Donc, il y a de la méconnaissance qui est encore plus grave que l'ignorance, il y a de la bravade, et toujours, nous revenons à ce meilleur antidote, j'emprunte le vocabulaire au médecin que vous êtes, qui passe par l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir et la connaissance.
Antidote ou vaccin?
Ou vaccin.
Le savoir, la connaissance sont d'excellents vaccins contre l'ignorance, l'intolérance. Aujourd'hui, si je peux parler sans avoir fait d'études de théologie particulière, de ce qu'est notre islam. Enfin, on ne s'est pas découvert musulman comme ça. Nous sommes le produit d'un islam pluriséculaire, fait d'une tradition arabo-berbéro-andalouse, qui a irradié le monde, aussi bien le monde musulman que le monde occidental et chrétien. Il faut se rendre compte de ce qu'a pu apporter la culture arabo-andalouse et les savants arabes et musulmans à la pensée mondiale. Si je peux parler avec autant de sérénité aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a transmis ces cultures, on m'a transmis cet enseignement. Je l'ai reçu de mes parents, je l'ai reçu de mes grands-parents, j'ai été le compléter par mes lectures, et je peux parler en toute clarté sur ces questions. C'est ce qui manque aujourd'hui. La connaissance et le savoir élèvent l'homme, l'écarte des chemins tortueux. Chaque fois que l'homme est devant quelque chose qu'il ne comprend pas ou qui lui fait peur, c'est là où il a les réactions les plus extrêmes. C'est tragiquement humain.
Ce que vous dites appelle deux réflexions. La première, c'est selon la métaphore de la patineuse artistique qui ose le triple axel, c'est lorsqu'elle a une bonne colonne vertébrale. Si elle avait un lumbago ou une quelconque fatigue, elle n'irait même pas patiner. Donc votre sérénité, vous la puisez dans ce long patrimoine et cette connaissance d'une tradition multiséculaire. Le second point, c'est aussi libérer l'esprit de sa prison, aller acquérir le savoir, s'appeler à Odé, oser penser par soi-même, donner les outils pour recouvrer une dignité par la connaissance. Et c'est ce qui manque pour cette jeunesse notamment. Il y a la responsabilité de l'éducation nationale comme institution, mais il y a aussi la responsabilité des parents et des familles.
Alors, pour comprendre ces problématiques, il faut quand même avoir une connaissance du milieu. Et l'on méconnaît ces milieux populaires. On méconnaît qui fréquente aujourd'hui les quartiers populaires qui ont été ghettoisés par le départ des ouvriers, des ce qu'on appelait les petits blancs. Qui connaît ces quartiers? Très peu de monde en réalité. Très très peu de monde. Moi, je les connais parce que j'exerce en partie une activité de permanence des soins en Seine-Saint-Denis. Donc, je vais directement dans ces quartiers. Il faut mesurer ce qu'ont été les ravages de la crise économique avec des familles où les gens sont au chômage depuis de très nombreuses années, sur une ou deux générations. Il faut mesurer ce qu'ont été les bouleversements dans la sociologie des familles avec un nombre extrêmement important de mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants avec des difficultés énormes. Pour celles qui travaillent avec des emplois qui sont souvent sous-qualifiés, qui les obligent à quitter leur domicile pour aller travailler vers les bureaux de la défense ou vers les centres commerciaux qui sont loin de leur domicile. Ce qui fait que dans ces conditions-là, il est extrêmement difficile de prendre en charge des enfants, de les éduquer, de leur donner les moyens de s'élever. Moi qui suis médecin parfaitement inséré socialement, j'ai tout à fait la possibilité de payer des cours de mathématiques à mes enfants, de leur payer des cours de piano, de leur offrir des livres, de les envoyer en voyage, en colonie, en voyage culturel, en Italie ou je ne sais où. Dans ces populations, c'est extrêmement difficile.
France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec Majid Serhossine, médecin, animateur du site légalitédabord.fr et longtemps administrateur du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Majid Serhossine, toujours dans le sillage de ce que vous dites, et vous avez évoqué le département de la Seine-Saint-Denis, sans que ça soit la jauge à l'onde de laquelle il faut tout mesurer. Et vous dites aussi, dans votre tribune parue dans Libération, que c'est un département vivant où il y a, j'emprunte votre vocabulaire, des bobos, des jeunes filles en mini-jupe, belles, etc. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement cette jauge à l'onde de laquelle nous allons apprécier ce département. Mais c'est un département jeune et vivant, ce n'est pas ce que d'aucuns veulent en dire en le présentant d'une manière noircie.
Tout à fait. Les discours et les raccourcis tenus sur la population de la Seine-Saint-Denis, qui sont une composante pleine et entière de la nation française, avec des clichés outrageusement caricaturaux, sont d'une part très mal intentionnés et d'autre part sont totalement coupés des réalités de ce que représente ce département. C'est un département jeune où les gens ne sont pas différents des autres. Qu'est-ce que c'est que cette image que l'on projette d'une espèce de jungle où vivraient des arriérés, des barbares? Au contraire, il y a une population qui est extrêmement sympathique, extrêmement attachante, pas différente de celle qu'on rencontre dans notre quartier. Et l'on voit bien que à l'heure actuelle, c'est sans doute un département où grâce au prix de l'immobilier parisien, se réinstalle une nouvelle mixité. Il suffit d'aller à Pantin, il suffit d'aller à Montreuil, il suffit d'aller à Aubervilliers, il suffit d'aller à Romainville, il suffit d'aller à Rosny-sous-Bois pour voir que les choses sont en train de changer.
Alors, c'est délibérément que nous voulions faire de cette émission un débat citoyen pour la promotion d'une citoyenneté avec les devoirs du citoyen dont il doit s'acquitter, mais aussi le fait de jouir de ses droits inaliénables. Vous disiez tout à l'heure à propos des familles qu'elles n'ont pas pu accéder aussi à cette idée que le meilleur investissement, c'est l'éducation de leurs enfants. Quel est le rôle, notamment des imams, ministres des cultes, des liturges, pour leur expliquer, par exemple, qu'au lieu de s'endetter pour aller acheter un mouton afin de l'immoler, alors que ce n'est pas une prescription religieuse absolue, il vaut mieux peut-être, dans ce cas, acheter des tablettes ou des ordinateurs pour l'éducation de leurs enfants. Donc vous pensez que le rôle aussi des imams, outre être des thérapeutes de l'âme, c'est aussi dans l'éducation sociale?
Les hommes de religion ont un rôle d'éducateur. On sait très bien quelle a pu être la qualité de l'enseignement catholique, des jésuites, par exemple. on devrait pouvoir avoir des imams dont la formation mérite d'être complétée, dont la certification et la normation de la parole doit être mise en place, ont une grande responsabilité sur leurs ouailles, sur la communauté qu'ils doivent irradier de leur savoir et de leur parole. Moi, j'aime bien rappeler, chaque fois que je me trouve en présence de jeunes gens que je rencontre en Seine-Saint-Denis, par exemple, puisque c'est vraiment un département que je connais mieux, mais je ferai la même chose ailleurs, je leur rappelle un certain nombre de choses, des paroles comme celle-ci, l'encre du savant est plus précieuse que le sang des martyrs, ou tu chercheras la connaissance du berceau jusqu'au tombeau. Et je me souviens d'un débat à la Courneuve, il y a quelques années de cela, où j'avais cité un philosophe qui disait ces propos-là. Et à la fin, on m'a demandé qui était ce philosophe. Je leur ai dit, mais c'est le prophète Mahomet.
Et qu'il avait encore ajouté, aller acquérir le savoir fût-ce en Chine, avec cette idée que le voyage était périlleux, mais plus important encore, que le savoir à Médine n'était pas autosuffisant. Donc, on peut ajouter, il vaut mieux peu de science que beaucoup de culte, et il vaut mieux étudier une partie de la nuit que prier toute la nuit. Donc l'importance de l'acquisition du savoir. La formation des imams, nous y venons, des imams à l'esprit gallican, affranchis de toute autre ombre tutélaire, au fait aussi du patrimoine et de l'héritage français, c'est leur pays. Il n'y en a pas d'autres, mais avec une le mais n'est pas une invalidation du début de la phrase, mais avec une hybridation des connaissances théologiques, islamologiques, et aussi la connaissance de la réalité française, dont l'identité n'est pas cryogénisée ou fossilisée, elle est évolutive.
Tout à fait. C'est sans doute là une des questions qu'il faudra résoudre de manière urgente. On a à juste titre, souligner le fait qu'il existait, entre guillemets, une pénurie d'imams du terroir. Et une des tâches urgentes est de mettre en place des endroits où ceux-ci, ou ceux qui aspirent à le devenir, pourront être formés, aussi bien sur le versant théologique que sur le versant connaissance de l'histoire de France, de la tradition, de ce qu'est l'histoire de la laïcité, du combat qu'on a mené en France pour écarter l'Église de la chose publique, combat qui a été très très violent, et on s'en souvient, ça a été très très violent, la loi de 1905 n'est pas venue comme ça. Il faut d'urgence mettre en place ces endroits et ces lieux. Se pose la question du financement de ces universités, de ces écoles, on les appellera comme on veut, se pose la question d'utiliser ce qui existe déjà. Il y a des expériences dans les universités catholiques où on forme un certain nombre d'imams. Il faut encourager, développer ces lieux. Jusqu'à ce jour, on a pris un énorme retard sur ces questions. Il n'est plus possible qu'on nous montre des images d'imams caricaturaux. Après tout, moi, pour être médecin, j'ai dû faire la preuve d'une certaine formation. Je suis inscrit à un conseil de l'Ordre national des médecins. On a vérifié mes connaissances, on les a certifiées, et j'ai des compétences dans un certain nombre de domaines. Et je suis plutôt interniste. Je ne peux pas m'improviser demain neurochirurgien.
Et de ce point de vue-là, l'impact de ces autoproclamations d'imams est un impact désastreux quand il n'y a aucune connaissance derrière. J'ai eu l'occasion de le dire ici même, si on n'aurait jamais eu un hurluberlu qui va dire qu'écouter de la musique, ça démonise. Et vous avez parlé de ces imams caricaturaux. Ce n'est pas la calotte qui fait l'imam, mais sa connaissance et son savoir. Donc on revient toujours à l'importance de l'acquisition du savoir. Deux choses peut-être avant de finir. Cette émission est consacrée au cas franco-français interne à la France. Vous avez dit, il n'y a peut-être pas un islam de France, mais un islam en France. Toujours est-il que nous parlons, en tout cas, des citoyens musulmans dans notre pays et aussi ceux qui sont hôtes de ce pays, qui ne sont peut-être pas encore citoyens ou pas du tout citoyens. Mais à l'ère de la mondialisation, il y a aussi une interaction avec les contextes islamiques d'une manière générale, parce que les mots ont leur importance. Ne pensez-vous pas, Majid Serhoussine, qu'il y a une possibilité, en dépit de tout, pour rester dans une vision optimiste, qu'un travail d'intelligence, de refondation de la pensée, de renouer avec l'humanisme, les acquis de la modernité, puisse se faire sous un ciel un peu plus clément ici, en dépit de ce que vous avez pointé du doigt, et ce travail-là puisse être transmis ailleurs.
Il est indiscutable que la France et l'Europe offrent un terreau extrêmement favorable au développement d'une réflexion de ce que pourrait être l'islam au XXIe siècle. On trouve dans ces pays un espace où la parole est libre, où la réflexion peut se manier de manière apaisée et scientifique, et où des intellectuels musulmans, des théologiens, découplés de questions politiques, pourront essayer de faire des propositions de ce qu'est l'islam au XXIe siècle, l'islam dans la modernité. Il ne faut pas croire que les gens de l'autre côté de la Méditerranée, pour être un peu sommaire, ne regardent pas et n'observent pas ce qui se passe ici. Et sans doute que si l'Europe fournissait un exemple, les intellectuels du Maghreb, du monde arabo-musulman, mais du reste du monde islamique, le monde arabo-musulman est minoritaire dans la communauté des musulmans mondiaux, pourraient s'inspirer et utiliser l'exemple qui peut être organisé ici pour le transposer dans leur pays.
Oui, et de ce point de vue-là, saisir l'opportunité de fonder les bases sérieuses, académiques, savantes, d'une islamologie elle-même que je qualifierais d'islamologie savante avec toute la batterie de disciplines qui dépasse la simple théologie et qui d'ailleurs malheureusement en contexte islamique est moribonde. Vous espérez, vous œuvrez pour cela ?
Tant qu'il me restera un peu de force, qui j'espère durera encore assez longtemps, je continuerai.
Vous êtes dans la force de l'âge, Majid Serhousseini.
Je vois tous les jours des gens qui, qui malheureusement voient leur force décliner. Tant qu'il me restera cette possibilité, j'essaierai modestement d'agir en ce domaine. Je crois que nous devons, en tant que musulmans, en tant que gens, arriver à des situations sociales confortables, avec une capacité intellectuelle raisonnable, de travailler, de réfléchir, d'apporter une pierre, de contribuer à la Chaque musulman doit se percevoir comme un ambassadeur de sa religion. Et un ambassadeur doit développer des relations avec les autres, aussi différents qu'ils puissent être, d'autres religions, d'autres nations, d'autres pensées philosophiques, et c'est le rôle de chacun des musulmans. Et il faut se souvenir d'une chose, l'islam ne s'est pas propagé par l'épée, elle s'est surtout propagée par le verbe. Ceux qui veulent défendre leur religion, leur culture, doivent se souvenir de l'histoire. Et on ne fait avancer ses convictions d'une manière sûre qu'en convaincant.
Merci infiniment, Majid Serhousseini. Nous avons parlé de république, de citoyenneté, de la nation, de tradition religieuse, dans une société sécularisée sous la voûte commune de la laïcité, encore une fois. C'est d'abord le citoyen in abstracto de ses appartenances, et après il se déterminera, croyant ou pas, et en l'espèce musulman, et vous en êtes un meilleur ambassadeur. Un homme de connaissance, de savoir, un sage, hakim, c'est le sens aussi du médecin. Et vous soignez à la fois les corps, mais aussi l'esprit, par votre pondération et votre parole apaisée. Merci encore une fois.
Merci à vous.
C'était question d'islam. Nous avons reçu Dr Majid Serhousseini. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierrick Charles. Et la réalisation, c'est toujours notre ami Franck Lilin.